Séquence pour comprendre et débattre avec Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté à Arras. Alors, la semaine dernière avec vous, on a parlé des rapports entre démocratie et capitalisme, et notamment du droit de vote. Alors, pour reprendre un petit peu votre argument, votre argument c'était que l'acquisition du droit de vote par les citoyens français, c'était d'abord le fruit de nombreuses luttes, et puis ça s'est fait dans le cadre d'un rapport de force favorable, notamment aux classes les plus populaires. Alors aujourd'hui, on parle des autres droits des citoyens français, notamment dans une démocratie. Alors vous prenez comme point de départ aujourd'hui la devise française.
Oui, on a vu que dès 1789, le droit de vote était limité uniquement à ceux qui payaient l'impôt, c'est-à-dire ceux qui disposaient de suffisamment de richesses pour payer des impôts. Le suffrage universel arrive seulement en 1848 avec les mouvements à Paris. Et les femmes qui avaient participé à ce mouvement-là n'obtiennent pas le droit de vote. Le droit de vote des femmes, il faudra attendre la libération pour que... C'est-à-dire que le droit de vote, c'est quelque chose qui a été arraché, ce n'était pas induit. Pour ce qui est des droits du citoyen, eh bien on va s'apercevoir que la devise de 1789, il faut déjà la comprendre. Liberté, égalité, fraternité, les trois mots. La liberté de 1789, c'est essentiellement la liberté du commerce qui est acquise. En 1789, on fait la Révolution, et une des premières lois qui sont mises en place, en 1791, c'est la loi Le Chapelier qui interdit aux ouvriers, je cite, « aux ouvriers d'une même profession » de se réunir pour discuter de leurs intérêts professionnels. C'est-à-dire qu'une des premières choses que fait la Révolution française, ça va être d'interdire la liberté de s'organiser, qui existait dans le cadre des corporations. Dans les corporations de l'Ancien Régime, les professions organisaient la vie professionnelle, elles organisaient même la promotion, on passait apprenti, compagnon, maître, elles organisaient la formation des travailleurs, et elle aussi organisait le tarif des professions. Et par rapport à ça, la Révolution française entend bien que les organisations ouvrières ne puissent pas négocier les tarifs. C'est-à-dire que le droit syndical, il faudra attendre 1884. C'est-à-dire qu'il va falloir un siècle de lutte pour que le droit syndical, le droit de s'organiser collectivement, se mette en place. Un autre droit pour les travailleurs, ça va être le droit tout simplement de s'arrêter de travailler, le droit de grève, qui s'appelait droit de coalition. Il faudra attendre 1864. Et ce droit va être acquis avec un certain nombre de morts. En France et dans le Nord, une des événements marquants de l'histoire du mouvement ouvrier qui a marqué la mémoire collective, ça a été les fusillades de Fourmies, où la troupe tire sur la foule et fait des morts parce que les ouvriers manifestaient pour tout simplement travailler 8 heures par jour, 6 jours par semaine, 48 heures. Cette revendication n'était pas acceptable et on a la troupe qui tire contre le peuple. Vous voyez comment le droit dans l'entreprise de pouvoir dire son mot, il a fallu plus d'un siècle de lutte. La position des pouvoirs publics était ce que actuellement on appelle la modernité. Je vais vous citer une phrase qui va... Il convient de s'en tenir au libre jeu de la loi de l'offre et de la demande au niveau du marché du travail. Voilà cette phrase. Cette phrase qu'on pourrait sortir de l'Organisation mondiale du commerce, elle n'est pas de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est de Louis-Philippe, le roi de France, en 1830. Voilà la modernité. C'est une modernité relativement ancienne, ce qui nous est proposé comme modernité.
Alors, vous avez parlé de liberté de commerce. Quand on en est-on par égalité et fraternité pendant la révolution de 1789?
Alors, pour ce qui est de l'égalité, l'égalité est aussi vue d'un certain angle. À la limite, tous les hommes sont égaux. C'est-à-dire que sur un pied d'égalité, on va mettre le patron et l'ouvrier qui n'a que sa force de travail. C'est un petit peu tout le monde est libre, le renard comme la poule. Chacun peut faire ce qu'il veut, c'est l'égalité de 1789. Et la fraternité qui devait découler de tout ça, eh ben, on le voit tout au long du 19e siècle. Le 19e siècle est vraiment un siècle fraternel où on voit les conditions de vie de la majorité des ouvriers qui est du domaine de la misère, pendant que se développe le capitalisme du 19e siècle et l'augmentation considérable des richesses.
Donc, vous avez parlé du droit d'organisation et d'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Alors, qu'en est-il des autres droits des citoyens en dehors de l'entreprise ?
Alors, en dehors de l'entreprise, ça va être un petit peu comme à l'intérieur de l'entreprise. Ça va être le fruit d'une lutte assez forte. Le code Napoléon, c'est-à-dire la législation qui va structurer la société capitaliste, interdit le droit de manifestation. On n'avait pas le droit de se réunir sur la place publique à plus de 3. Vous voyez, le droit de manifester va être interdit et il faudra attendre 1834, c'est-à-dire après les luttes des Canuts, une nouvelle forme de lutte qui a fait 3000 morts à Lyon, pour qu'on ait le droit d'association qui est autorisé. Et le droit d'association est autorisé et c'est les pouvoirs publics qui décident si l'association peut être autorisée ou interdite. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de droit d'association, il y a l'autorisation au pouvoir public, est-ce qu'on a le droit d'exister comme association ? En 1834, jusque-là, c'était complètement interdit. Pour obtenir le droit d'association, qui maintenant apparaît une évidence, il faut attendre la loi de 1901. Là aussi, ça fait plus d'un siècle après la Révolution pour réussir à obtenir le droit d'association. Alors, concernant la démocratie par rapport au capitalisme, on peut dire que la démocratie n'est pas inhérente au capitalisme. La démocratie a été conquise sur le capitalisme qui entendait bien contrôler, cadrer tout la majorité du peuple.
Alors, Paul Masson, merci de votre lecture. On peut peut-être parler du programme de la semaine prochaine dans cette séquence pour comprendre et débattre.
Alors, la prochaine fois, on va regarder la suite un petit peu de l'histoire. Et on va s'apercevoir qu'à un moment donné de l'histoire, le capitalisme va adopter la démocratie. On va essayer de comprendre pourquoi, à ce moment-là, il l'adopte. Et puis, on s'apercevra que, progressivement, il est en train de le remettre en cause, mais c'est la suite de l'histoire.
Rendez-vous donc mardi prochain, 7h30, 12h30 et 18h30. D'ici là, je rappelle aux auditeurs que leurs questions sont les bienvenues. Le numéro de téléphone 03 21 50 99 99, l'email pfm@radiopfm.com.